Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, on est avec Nicolas Maurer. Salut.
Salut.
Ça va, Nicolas?
Ça va très bien.
Nicolas, tu es CEO?
C'est ça, CEO, comme tu le dis si bien.
PDG de Vitality.
Ouais, c'est ça.
Vitality qui est aujourd'hui l'une des plus grosses, la plus grosse équipe d'e-sport française. Alors je commence en disant, si vous connaissez pas l'e-sport, on en a parlé un peu plus dans un épisode précédent avec un joueur de pro pro d'Hearthstone que tu connais sans doute, qui est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et donc je vous invite à réécouter cet épisode avec Felken. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Mais est-ce que, pour expliquer un peu l'e-sport très rapidement, parce que sans doute les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est du sport sur jeux vidéo, tout simplement.
C'est ça, c'est la compétition de jeux vidéo à haut niveau. Et qui est en fait un univers très développé avec ses codes et qui ressemble beaucoup au sport traditionnel. Simplement, voilà, c'est pas sur un terrain de foot, mais c'est par jeu vidéo interposé. Tu parlais d'Hearthstone. C'est un jeu qui se joue individuel. Et sinon, il y a plein de jeux aussi en équipe comme League of Legends, Counter-Strike, plein d'autres. Voilà.
Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de Vitality. En gros, l'e-sport, c'est un truc qui a vraiment explosé, on va dire, ces 3-4 dernières années, si je me trompe pas. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein,
Non, c'est ça, en fait. Bon, on va en reparler, mais nous, on a commencé en 2013 où ça avait déjà fait un grand pas en avant et c'était devenu beaucoup plus gros par YouTube, Twitch, tout ça. Mais ces dernières années, ça continue à accélérer très fort, ouais.
Ça vient à la base, si je me trompe pas, d'Asie, plutôt, hein, l'e-sport.
Alors en fait, oui, on va dire l'e-sport qui devient, on va dire, mainstream, ça vient de Corée du Sud, parce qu'il y a toujours eu un peu dans tous les continents des compétitions de jeux vidéo, des gens qui s'organisaient d'une manière ou d'une autre pour pratiquer leur passion de manière de plus en plus compétitive. Mais le pays où ça a explosé de manière grand public, c'est la Corée du Sud, où tu peux voir depuis longtemps de l'e-sport à la télé. Tu as une sous-partie du ministère des sports qui est dédiée à l'e-sport. Tu as des champions d'e-sport qui font de la pub comme des sportifs le feraient pour n'importe quel produit. Tu peux les voir dans le métro, voilà, sur des énormes affiches. Donc c'est complètement dans les mœurs là-bas depuis longtemps.
Et je sais pas si t'as regardé ce docu sur les jeux vidéo qui s'appelle Highscore sur Netflix, peut-être pas, je sais pas.
C'est lequel? Parce que moi j'en ai vu un, ce qui revient à la jeunesse. Tu vois les compétitions.
Il y a les compètes de Sega.
De Nintendo notamment. Non, je crois, oui, sur un gamin qui raconte son histoire.
Dans les années 90.
J'ai vu ça.
C'est quand même complètement fou. Donc ça existe vraiment depuis des années et des années. À l'époque, tout simplement, le jeu vidéo se prête de toute façon à la compète d'une manière ou d'une autre, quoi. Pour réexpliquer un petit peu, Vitality, c'est aujourd'hui l'une des plus grosses structures françaises. Vous avez vraiment des ambitions mondiales même, hein. Vous avez vraiment, c'est costaud. Mais avant de parler de tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est Nicolas, qu'est-ce qu'était Nicolas quand il avait 7-8 ans? Qu'est-ce qu'il faisait? Qui était-il?
Bah alors, un gamin tout à fait normal, parisien. Donc ouais, j'ai grandi à Paris, dans le 10e, 6-7 ans. Qu'est-ce que je faisais? Bah, je bouquinais et je jouais à ma Game Boy, voilà. Et je passais du temps avec mes potes. Enfin, ouais, je kiffais la vie, comme depuis le début, et ça continue. Enfin, voilà, j'ai toujours été très content. Et ouais, donc, j'ai du mal à avoir des souvenirs. On s'en parlait un peu avant de commencer à enregistrer. J'ai une mémoire assez particulière, parce que je me souviens d'énormément de choses que je peux entendre, une date, une histoire, tout ce que tu veux. J'ai une mémoire très précise, mais finalement, sur mes souvenirs qui remontent pas mal, c'est un peu plus flou. Mais voilà, moi, je suis le premier de trois... Enfin, j'ai deux petites sœurs, mon enfance, super heureuse.
T'as des parents entrepreneurs?
Pas du tout. Enfin, c'est marrant, pas du tout, parce que je dis ça, mais mon père, finalement, oui, mais c'était pas dès le début.
Okay.
Il s'est fait virer... de son job et il a repris un magasin de sport et en fait oui finalement il est devenu entrepreneur sur le tard et ça s'est bien passé mais il n'y a pas eu cette parce que pour rebondir pourquoi je te dis non au premier lieu à ta question c'est que j'ai pas baigné dans une culture entrepreneuriale quoi c'est plutôt pas accidentel ce que j'ai fait mais en tout cas c'était pas du tout prédestiné comme ça que j'ai des potes entrepreneurs où en fait c'était écrit quoi t'as l'impression c'est leur c'est comme ça que ça se passe dans la famille, quoi. Moi, pas spécialement.
Ouais, ouais. Ton rapport aux jeux vidéo à l'époque, c'est juste tu joues à ta Game Boy et c'est tout, quoi.
Oh, alors là, par contre, c'est marrant parce que forcément, en ayant une équipe d'e-sport, les gens qui connaissent pas trop le sujet vont me dire « Ah ouais, mais toi, t'es joueur à fond et j'aime bien le jeu vidéo. » Mais d'abord, c'était pas forcément une passion extrême, quoi. J'aime bien ça normalement. Et puis, je suis pas plus doué que la moyenne, loin de là, normal, quoi. J'aime bien ça, c'était un loisir parmi d'autres, un plaisir, mais c'est pas... Voilà, je me suis pas construit là-dessus spécialement. Ouais. Juste, j'aime bien, c'est un médium super intéressant à mon avis. Voilà.
Tu fais un cursus assez normal et si je me trompe pas, tu vas dans une école de cinéma, c'est ça?
Ouais, alors moi je savais vraiment pas ce que je voulais faire, hein. C'est bon, classique. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment terrible de demander à des gamins de 15, 16, 17 ans de choisir et de choisir une orientation qui va potentiellement affecter toute leur vie, sachant qu'à cet âge-là, t'en as aucune idée, t'en as rien à foutre, t'as envie d'être avec tes potes, je généralise à fond, mais franchement, t'en as aucune idée, quoi.
T'avais pas une vocation, quoi.
Non, alors moi, pas du tout. Franchement, j'avais envie que le bahut se passe sans trop en faire, tranquillement, ça s'est bien passé, mais mollement, quoi, on va dire, j'avais pas une assiduité incroyable ou une passion là-dessus, mais ça se passait correctement, et je savais pas quoi faire. Je fais une fac d'histoire, d'abord, mais fac d'histoire, pas en mode, je suis passionné d'histoire, même si j'aime bien ça, mais plutôt en mode, par défaut, je sais pas trop quoi foutre. Et après, école de ciné, parce que ça m'intéressait, mais là non plus, c'était pas encore la vocation, mais ça s'est bien passé et je me suis retrouvé dans ce milieu ciné-télé en sortant de l'ESRA, voilà.
T'as eu un peu de mal à te faire à l'école, d'une manière générale, ou l'école a eu du mal à réussir à t'intéresser?
Pas non plus, parce que j'étais pas du tout un gamin rebelle. Moi, je pense que d'ailleurs, j'étais un plaisir pour mes parents parce que j'ai pas eu de crise d'ado ou tout ce que tu veux.
Okay.
Ah non, franchement, ça se passait tranquille. Juste, pas une passion pour l'école, mais pas non plus un rejet.
Okay.
Voilà, ça se passait, quoi. Mais j'étais quand même plus intéressé par être avec mes potes que de suivre les cours, sans que ça soit un rejet du tout, quoi.
Okay, okay.
Voilà. Mais je remets pas le système éducatif en cause. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que mes parents m'ont mis dans un bahut privé. Bon, moi, je trouvais ça un peu con. Mais voilà, pourquoi je l'ai fait, quoi.
Pourquoi tu trouvais ça un peu con?
Bah, parce que déjà, à cette époque, je pense que ça commençait déjà à heurter mes principes. Enfin, pourquoi faire ça, quoi? mais quand même, je l'ai fait assez docilement quand ma petite sœur, finalement, ils l'ont mis dans le même bahut et au bout d'un an, elle leur a dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me tire, quoi.
Ah.
Et moi, je me rends compte que, finalement, ouais, je trouvais pas ça génial, mais je me laissais faire, quoi. À l'époque, voilà.
T'étais l'aîné qui encaissait les coups, c'est ça?
Bah, et
qui
les disait, coups, bon, non, déjà.
Non, mais les coups, j'exagère.
Parce en fait, que la vie était douce.
Qui faisait le doron.
Ouais, je me prenais pas plus la tête que ça. Okay. Je remettais pas en cause trop l'autorité non plus.
C'est un truc qui a changé aujourd'hui.
Bah, c'est vrai que rétrospectivement, ça n'a aucun sens que je sois allé dans ce bahut. Et notamment que t'es un bahut catho et moi je suis athée à fond. Donc je suis vraiment pas dans la religion du tout, même. Très, très anticlérical, on va dire. Mm-hmm. Mais ouais, c'est vrai que je me suis un peu construit plus tard sur tout ça.
Ok. Donc ouais, l'autre truc aussi que je t'ai vu dans une masterclass raconter aux gamins qui étaient dans une école de jeux vidéo que, en gros, t'avais pas foutu grand chose pendant l'école et que rétrospectivement, en fait, tu t'es mis à taffer comme une brute quand t'as lancé Vitality, quoi.
Ouais, ça c'est assez marrant parce que t'as ce mythe qui n'en est pas franchement de l'entrepreneur, il faut qu'il bosse double journée, ce que tu veux, et je pense en effet que c'est plutôt pas un mythe parce que finalement t'es seul face à toi-même ou avec ton cofondateur, ce que tu veux, et que si tu bosses pas, personne d'autre va le faire. Donc d'une certaine manière, je pense qu'il y a pas une tonne de boîtes qui réussissent sans que les gens aient mis beaucoup beaucoup d'énergie, ça c'est certain. Mais c'est vrai que j'étais plutôt feignant avant, quoi. Et c'est le fait de faire une boîte qui m'a vachement poussé.
Ah ouais.
Parce que au bahut, enfin, j'étais pas du tout un monstre de travail, et j'adore pas bosser, enfin, c'était pas du tout, et c'est vraiment en faisant une boîte que je me suis retroussé les manches, quoi.
Comment t'as fait pour acquérir cette discipline de travail, alors qu'en fait, on aurait plutôt tendance à se dire, que c'est un truc que t'apprends, justement, à l'école, ou, tu vois, en ramant dès le plus jeune âge. Toi, ouais. T'es arrivé tardivement, quoi.
Ouais, mais je pense parce qu'il y a vraiment un côté, enfin, moi, donc, j'ai bossé comme monteur, vidéo pendant pas mal d'années. Et j'ai vraiment, encore une fois, je pense qu'on se parle un peu d'un cliché du côté, je bosse pour des autres, pour d'autres, qui sont pas toujours géniaux. Et en fait, je pense que vraiment, tu bosses pour toi, il y a une motivation particulière, quoi.
Ouais.
Voilà. Je pense que ça a tenu principalement à ça. bah là, c'est pour ma tronche, quoi. Donc, je vais me bouger parce que sinon, ça, il va rien se passer, quoi.
Donc, justement, tu parlais du fait que t'étais rentré comme monteur vidéo dans une boîte. Donc là, pour le coup, c'est pour la télé, c'est ça que tu
vois? Ouais, en fait, alors ça, c'est, je pense qu'il y a une frustration là qui est pas gigantesque, mais, je voulais plus bosser en ciné parce que moi, j'ai jamais eu de télé, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, pas que tout soit à jeter, mais voilà, j'ai pas du tout cette culture de la télé. Je connais pas ce qui s'y passe, ça m'intéresse pas trop. Par contre, je suis très cinéphile. Donc j'avais pas mal d'ambition de bosser en ciné, ça a pas trop réussi. J'ai fait quelques trucs, mais il y a peu de passerelles en fait. Et pas du tout que ça soit une critique de ce secteur-là, mais la réalité c'est qu'il y a très peu de place, tout simplement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus pour bosser dans le ciné, et qu'en fait t'es vite dans une direction, dans le sens où si t'intègres si je sais pas moi, t'es avec les bonnes personnes, tu te fais le bon réseau, tu bosses bien. Dans tous les cas, dans ces milieux-là, il y a le prérequis, tu bosses bien, parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'on t'appelle, il y a suffisamment de monde, mais ça suffit pas du tout. Il faut être au bon endroit au bon moment, mais là encore, il y a plein d'autres métiers où c'est le cas. Je sais pas, si t'es comédien, tu peux être le plus talentueux du monde, il y a tellement peu de place que si t'es pas un moment, si t'as pas la chance qu'il faut, ça le fera pas. Donc c'est pareil pour beaucoup d'autres métiers. Et toujours est-il que voilà, moi, je me suis retrouvé à bosser surtout à la télé, et c'était pas passionnant intellectuellement, tout simplement. Mais sans faire plus de critiques que ça.
Non, ouais, je comprends.
Voilà, il y avait donc ce côté-là. Bah, en fait, je pense qu'il y a des moments de ma carrière, grand guillemets sur carrière, parce que c'était assez court, de monteur, j'aurais pu me relancer en tentant d'aller bosser en ciné, mais c'était revenir, perdre 2, 3, 4 ans, perdre un certain confort, tout ce que tu veux, qui n'était pas évident, quoi. C'est pas des choix de vie simples, et je l'ai pas fait. Et donc, je me suis retrouvé à continuer à bosser en télé avec une certaine routine, un certain confort là aussi. Mais c'est vrai que on va venir après, j'imagine, sur le côté vitality. Mais c'est vrai que ça me gonflait un petit peu, quoi.
Ouais. Et c'est étonnant, en fait, que t'aies fini par trouver, sans doute, t'as fait sans doute plein de sacrifices en montant vitality à l'époque. Et t'as pas eu l'envie de faire ces sacrifices-là pour ton métier de monteur vidéo, enfin ta formation.
Oui, c'est intéressant, mais parce que je pense que c'était pas assez une passion. Moi, j'ai des potes monteurs, c'est leur passion, c'est leur truc, et qui sont d'ailleurs plus forts que moi je l'étais, parce que moi je pense que j'étais pas mauvais, mais voilà. Je pense que monteur, ça m'allait bien sur un truc, c'est que moi je suis pas un artiste, je suis pas un créateur. En fait, dans la définition pure du créateur, enfin moi ça m'a toujours assez fasciné, même quand je bossais en télé. Il y a des mecs, même si ce sont des trucs que tu vas pas juger qui sont les meilleurs trucs du monde, mais ils sont trop forts, quoi. Ils ont une capacité créatrice, les auteurs, même de séries, tout ce que tu veux, que tu vas aimer ou pas, mais qu'importe. Les gars, ils ont 15 idées à minute, ils envoient du lourd, et moi, en fait, c'est pas du tout mon cas, quoi. Et moi, j'aurais, par exemple, plein de monteurs veulent être réalisateurs, parce qu'ils ont plein de choses à raconter. Moi, j'ai pas une tonne de trucs à raconter, par contre, je pense que je suis pas mauvais pour servir la vision d'un réalisateur et réfléchir avec lui, avoir un œil critique. En fait, je suis un meilleur critique que créateur. C'est okay. Assez marrant. Et c'est plus confortable aussi. Hein. et du coup, monteur, ça m'allait bien là-dessus. Parce que tu dois prendre la vision de quelqu'un, lui faire prendre vie et puis bosser en coopération. Moi, je pouvais pas me retrouver tout seul devant ma feuille blanche, quoi. Voilà. Donc, monteur, c'était bien. Pour autant, c'était pas ma passion première, quoi. C'était pas une vocation du tout. C'est sûrement pour ça que j'ai pas fait ces sacrifices-là à ce moment-là. Parce que j'étais pas du tout sûr de vouloir faire ça de ma vie, voilà.
Donc t'étais intermittent à l'époque.
Ouais,
c'est ça. Et mais tu finissais par bosser quasiment que.
À la fin, avant de faire Vitality, ouais, on était plutôt permittent, enfin dire des séries qui tournaient tout le temps. Ouais. Donc en fait, c'était très confortable, par contre, parce que tu bosses 6 mois, t'as 6 mois d'intermittence, c'est confort, quoi.
Ouais. C'est là que tu rencontres Fabien ?
Absolument, j'ai rencontré Fabien.
Qui a quelques années de moins que toi.
Beaucoup plus jeune, ouais. Il a 6 ans de moins.
6 ans de moins, c'est
tellement.
Attends,
ça change tout.
Et donc lui rentre, si je me trompe pas, dans la boîte dans laquelle t'es, et il est ton assistant, en fait, c'est ça?
C'est
la base.
Ça, exactement.
Donc lui est dans le montage aussi.
Exactement, parce que lui, donc, est dans l'e-sport, mais à cette époque, donc 2012, 2013, l'e-sport, c'est extrêmement niche. C'est un univers de passionnés qui commence à grandir, je l'évoquais en intro, parce que YouTube se développe et que tu as cette croisée des chemins entre l'explosion du gaming sur YouTube, les grosses compétitions e-sport qui arrivent.
Sur Dailymotion aussi.
Alors nous, on a commencé avec Dailymotion, mais je dis YouTube parce que je pense notamment à Gotaga qui faisait beaucoup de VOD, parce que nous on faisait du Dailymotion, mais c'était plutôt sur le live, donc le pré-Twitch, pré-époque Twitch, tandis que là, on va dire aussi les YouTubers gaming arrivent, quoi, on va dire. Et ça s'interconnecte à l'e-sport à cette époque. Mais malgré tout, Fabien, il fait ça purement passion. Voilà, c'est un univers de passionnés et il n'y a pas vraiment d'argent, quoi. Donc, il n'en vit pas. C'est ça qui l'amène à bosser dans le montage.
OK. Et donc, vous vous rencontrez ? qu'est-ce qui se passe?
Bah, il se passe qu'on bosse bien ensemble, on s'entend bien, donc ça c'est une première chose sympathique. Et deuxièmement, il se passe que je découvre son univers, e-sport, son hobby, ce qu'il fait toute sa vie à côté du boulot. Et je découvre.
Comment tu découvres ça?
Bah, je m'intéresse, voilà, ouais. Ce qu'il fait, il m'en parle, je vois qu'il arrive le lundi au boulot, il est crevé parce qu'il a passé tout le week-end à faire ça, à être en déplacement je ne sais où, parce que déjà il y avait pas mal de compétitions en Europe. Et non, et je découvre cet univers-là qui m'intéresse beaucoup, moi, que je connaissais pas. J'avais juste entendu parler d'Elki, donc joueur de StarCraft, mythique, qui est parti en Corée, qui ensuite est reconverti dans le poker, mais qui était le précurseur des e-sportifs européens, quoi. C'était un Français qui partait vivre de ça en Corée. C'est une histoire assez incroyable. Donc je connaissais que cette facette-là de l'e-sport. Et je découvre que ça existait en France, quoi, et que c'est même en train d'exploser. Voilà. À l'époque, c'était sur Call of Duty Black Ops 2 en 2013. Qui ça marche très très bien, quoi. Et les compétitions ont pas mal d'ampleur, pas mal de viewers, pas mal d'audience. C'est pas encore ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est quelque chose. Et en fait, qui bouillonne un peu, je sais pas, moi j'ai pas la bonne métaphore, mais sous un couvercle, quoi, on va dire.
Et si tu vas
pas regarder en dessous, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Par contre, dès que tu jettes un œil, waouh, il se passe plein de choses, quoi. Et c'est ça que j'ai découvert avec Fabien.
C'est une toute petite niche, quoi. C'est
ouais, ouais, mais toute petite, mais en croissance très rapide, et surtout avec beaucoup de passion, quoi, et beaucoup d'engagement. Et tu sens un truc, tout simplement. Tu sens quelque chose qui va potentiellement devenir plus gros.
Ok, donc tu rencontres... donc Fabien, son pseudo, c'est Neo.
Neo, c'est ça.
Comme dans Matrix.
Ah là, c'est ça. c'est son pseudo qui s'est fait quand il avait 12 ans.
C'est ça.
Donc je pense qu'il assume parfaitement, mais voilà, c'est un pseudo assez classique.
comment vous en venez à vous dire « bah ok, peut-être qu'il y a un truc à faire » à monter une structure autour de ça. J'imagine que ça prend... Enfin, vous décidez pas ça du jour au lendemain, quoi.
Alors, je pense que c'est... de mon côté, depuis un moment, je me questionne sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tout simplement. Donc, encore une fois, je suis monteur, c'est assez confortable, je gagne ma vie correctement. L'intermittence, qui est un système que plein de gens connaissent pas bien, c'est un système... Bon, d'ailleurs, avec beaucoup de clichés sur les intermittents, bon, bref, passons, mais c'est un système qui est très binaire. C'est-à-dire que t'as une tonne d'intermittents qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir le statut, les fameux 507 heures, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je pense que ça, c'est un peu plus compliqué que ça ne l'était, mais le système n'a pas fondamentalement changé. Il est très binaire parce que soit tu ne fais pas tes heures, donc c'est-à-dire que déjà, tu n'as pas beaucoup bossé dans l'année, enfin, tu as bossé pas mal, mais souvent dans des conditions pas faciles, tu n'as pas tant d'argent et en plus, tu n'as pas tes heures, donc tu n'as pas le statut. Ou de l'autre côté, tu as des gens qui font plein d'heures, donc souvent assez bien payés, genre quand tu bosses en ciné notamment. Et en plus, tu as le statut, donc quand tu bosses pas, tu es payé très correctement. Donc très binaire, quoi. Soit tu es vraiment du bon côté du truc et le statut d'intermittent est vraiment agréable, soit tu es de l'autre côté comme énormément d'intermittents. En fait, c'est dur. Et là, nous, on était bien, on bossait pas mal. Donc voilà, on avait ce statut assez confortable, mais pourquoi je dis tout ça, c'est que c'est pas du tout représentatif de tous les intermittents. C'est plutôt la galère en général. Ça, c'est important de le dire. Et à côté de ça, voilà, je me dis, j'ai pas forcément envie de faire ça toute ma vie, quoi. Surtout à la télé, pour des séries qui me passionnent pas, encore une fois, intellectuellement. Bon. Et donc, j'ai cette envie de monter une boîte. Mais alors là, pour le coup, comme je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vois partout. Ah, monter une boîte, c'est génial. Mais une boîte de quoi? J'en ai aucune idée, quoi. Et ça, je pense que ça s'est répandu à l'extrême avec toute cette période sur Startup Nation, Station F, tout ce que tu veux. Ouais. Trop de gens veulent monter des boîtes, mais ils savent pas de quoi. Et parfois, au point que c'est un peu ridicule. Mais pour moi, c'était pareil. De la même manière un peu ridicule, je me disais, ah, c'est bien de monter une boîte, bosser pour moi, faire mon propre truc. Mais j'ai aucune idée de quoi faire. Donc ça sommeillait, quoi. Et en fait, l'e-sport, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose à faire, un nouveau secteur. Et puis, que j'aime bien, parce que moi, j'adore la compétition, j'adore le sport. Et en fait, tu retrouves tous les codes du sport là-dedans. Et le jeu vidéo, c'est intéressant, c'est quelque chose qui grandit. Bon, en fait, j'ai aimé cet univers-là. Et puis, au-delà d'aimer, je me suis dit que c'était intéressant et qu'il y avait peut-être un business. Sans trop savoir où on est, hein, soyons clairs, on peut refaire l'histoire 500 fois, on n'avait un peu aucune idée. Mais essayons, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais attends, faut essayer. Là, il y a un truc à tenter. Et puis, au pire, qu'est-ce qu'on aura perdu? Un peu de thunes et un peu de temps. Mais voilà, un truc à saisir, peut-être. Et donc, et Fabien, lui, il voyait bien le potentiel. Et je pense que l'idée de faire une boîte l'a séduit aussi sur le côté indépendant. Parce que finalement, Fabien, ce qu'il voyait, c'était que il passait d'une équipe à l'autre. À l'époque, t'avais plein de structures amateurs, semi-pro, et où c'était un peu géré avec les pieds, quoi. Où soit parce que c'était mal géré, soit parce qu'il y avait pas assez de moyens, soit parce que il y avait pas assez de ressources, tout ce que tu veux, mais le résultat faisait que c'était pas génial toutes ces équipes là et que lui était passé avec ses joueurs, il manageait des joueurs de l'une à l'autre sans que ça soit excellent, et je pense qu'il se disait simplement je peux faire bien mieux quoi. Donc ouais, bah faisons-le. Voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Wow. Alors tu dis ça, ça fait comme si vous lanciez, mais en vrai ça va mettre plusieurs années à éclore entre guillemets, parce que toi de ton côté, enfin vous continuez tous les deux à bosser.
Ouais, alors en fait ça c'est assez marrant parce que t'as ce mythe, et qui encore une fois n'en est pas complètement un, de l'entrepreneur qui risque tout, etc. C'est ce qui me fait souvent doucement rire parce que plein de gens qui se lancent comme entrepreneurs ont quand même un vrai filet de sécurité. Et c'est eux qui viennent te faire des discours sur moi, j'ai pris des risques, quand ils ont leurs parents, les gens derrière, où ils peuvent se planter. En fait, ils peuvent se planter. Il y en a qui se lancent vraiment sans pouvoir se planter. Et là, je dis waouh. Mais il y en a plein qui te font des leçons de prise de risque, mais en fait, ils jouaient pas leur vie, quoi. Nous, c'était pareil. On n'a pas joué notre vie.
Déjà, de base, en France, t'as le Pôle emploi, en fait.
Déjà, si c'est incroyable. C'est pas hyper, mal. C'est encore une fois, on a de la chance, quoi, en France pour ça. Et nous, c'est pareil, on n'a pas joué notre vie, dans le sens où on a gardé nos boulots. Puis on a lancé ça. Bon, bah, du coup, on bossait vraiment double ration, mais on savait que si ça marchait pas, on retournait à la vraie vie qui nous payait à la fin du mois, quoi. Donc, au début de Vitality, voilà, on avait ce filet de sécurité énorme, mais ce qui nous a permis de nous lancer à fond sans aussi nous dire, il faut absolument que j'arrive là, là, là. En fait, on pouvait tout simplement voir ce que ça donnait, quoi. Et donc, on s'est lancé. Bah, c'est Fabien qui a vraiment incarné, parce qu'il avait tous les codes, la compréhension, ce réseau. Voilà, c'était lui la figure, et ça allait encore évidemment, de Vitality, où il a vraiment lancé Vitality. Et moi, j'étais au début, je pense, plus là en support et en soutien de sa vision. Et après, bah voilà, moi, j'ai pris mon rôle de direction, de dirigeant, c'est venu... Enfin, on a trouvé notre fonctionnement avec le temps, etc. Mais en tout cas, donc voilà, on s'est lancé sans trop savoir où on allait et sans pression de vie ou de mort, quoi. Aussi, on testait et en fait, surtout, ça a pris tout de suite. Donc, t'as raison que ça a mis quelques années. Ça a mis même pas mal d'années à se développer, à grandir financièrement, à générer du revenu, à pouvoir nous faire grandir, employer des gens. Ça a pris du temps. Mais par contre, ça a tout de suite marché en tant que succès public. Évidemment, une certaine hauteur au début, mais il y avait tout de suite une passion, un engouement, quoi. Ça a tout de suite décollé, dès le jour 1.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview.
L'une des raisons pour lesquelles ça a décollé, c'est qu'en fait, vous étiez à l'époque... Donc, Fabien avait déjà une poule... un pool de players, c'est ça,
ouais,
de joueurs.
C'est ça, il manageait des joueurs, ouais.
Qu'il a fait rentrer dans l'équipe, et donc notamment Gotaga, qui était connu, qui était un peu la star.
Il était précurseur du YouTuber gaming, on va dire que c'est un des premiers à avoir pris ce secteur-là, et en fait en 2013 c'était le plus gros, et ça l'est toujours, donc bravo à lui, parce que c'est un exemple de longévité, et c'est un gars qui a toujours senti les bonnes tendances, qui a su se renouveler, et surtout voilà, c'est quelqu'un qui génère énormément de passion, énormément de gens le suivent, et qui fédère énormément de gens derrière lui. Très très impressionnant.
Si vous connaissez pas, je vous mettrai les liens dans les notes, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu ce que fait Gotaga. Mais aujourd'hui,
et déjà à l'époque, voilà, en 2013, donc il y a eu une conjonction d'éléments où le YouTube gaming grossissait, le live commençait à arriver, donc à l'époque sur Dailymotion, Call of Duty explosait. Et en fait, tout ça en même temps. Et Gotaga a été propulsé sur le devant de la scène.
Parce qu'à cette époque,
il était joueur pro.
Joueur pro, voilà.
Voilà. Et en fait, il avait une double activité de, on va dire aujourd'hui, influenceur, streamer, créateur de contenu, comme on peut le dire aussi, mais aussi joueur pro. Et il a cette double casquette. C'était un joueur extrêmement fort et à la fois quelqu'un que les gens adorent suivre. Donc, il avait ces deux casquettes et il a explosé. Et du coup, Fabien le manageait. Par les différentes équipes par lesquelles ils étaient passés. Et donc, Fabien lui a dit, attends, on va faire notre propre équipe, quoi. Et Gotaga a suivi. Et du coup, on avait cette rampe de lancement parce qu'il était extrêmement populaire déjà. Et ça a fait, grandir 1000 fois plus vite qu'on l'aurait fait juste nous, sans lui, quoi. Et c'était une locomotive pour Vitality, très clairement.
Donc là, ça, ça démarre, ça explose, c'est ça votre structure. Mais j'imagine que financièrement ça suit pas. C'est quoi les premiers revenus, c'est quoi?
C'est Dailymotion.
Ouais,
alors c'est des sponsors, ouais, qu'on va voir. Mais alors à l'époque, déjà on n'y connaît rien.
Hein, oui, c'est ça.
Bah ça c'est pour le coup l'entrepreneuriat, quoi. T'apprends sur le tas, donc tu vas voir, tu sais pas du tout ce que c'est une offre de sponsoring. Tu sais pas ce que tu donnes, ce que tu reçois. Ouais. Tu sais pas trop comment présenter ça, mais bon, t'as certaines intuitions. T'as un côté, Fabien et moi, on apprend très vite, donc on comprend vite pas mal de codes, mais néanmoins, on est des vrais amateurs et on n'a pas trop d'idées, donc tout se fait sur le tas. Donc on va trouver des sponsors, on va voir Dailymotion, donc qui à l'époque, bon, Dailymotion, je pense que plein de gens en France peuvent en parler, et c'est vraiment une occasion manquée gigantesque. Mais Dailymotion, à mon avis, à cette époque, a du mal sur la VOD contre YouTube, et comprend que le live, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que c'est une occasion manquée énorme, parce que le live aujourd'hui, tu vois Twitch qui est gigantesque. Et Dailymotion, en fait, en France, avait un avantage sur Twitch, c'est que Twitch avait pas ou peu de régie pub française. Donc, en fait, Dailymotion était techniquement plus faible que Twitch, mais pouvait promettre aux créateurs de la rémunération, puisqu'ils avaient leur régie pub côté VOD qui pouvait ramener sur le live. En bricolant, parce que t'avais pas vraiment la bonne technique pour mettre de la pub pendant un live, mais c'était le pré-roll de la VOD qui était appliqué au live. Donc, c'était un peu n'importe quoi, mais ils avaient quand même un moyen de monétiser que Twitch n'avait pas. Donc, en fait, le streamer, il préférait sûrement aller sur Twitch pour la plateforme, mais en fait, Dailymotion lui ramenait plus d'argent. Donc, bon, à un moment, quand t'es créateur de contenu, surtout à une époque où il n'y a pas tant d'argent, t'es quand même content de recevoir de l'argent à la fin du mois. Donc, Dailymotion avait un vrai coup à jouer sur le live, et ils l'ont fait en allant financer pas mal de créateurs, que ce soit les Web TV à l'époque, ou Vitality, nous, on allait voir Dailymotion en disant, ah, voilà, on a des joueurs Call of Duty qui veulent streamer, est-ce qu'on peut avoir un deal avec vous collectivement? Et donc, on avait des revenus de Dailymotion qu'on redistribuait à nos joueurs, mais on gardait une petite partie pour faire grandir Vitality. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais c'était des revenus petits, mais on a toujours eu, par contre, comme on n'avait pas d'investissement extérieur, on a mis 10 000 euros dans Vitality, donc nos économies glorieuses de l'époque, et il fallait que ça s'autonourisse, quoi, puisqu'on n'avait pas d'argent extérieur. Donc on faisait très attention, on était... Alors, un peu de manière foutraque, parce que aucun de nous deux est financier, et bon, bah, je gérais ce rôle-là, pareil, sans connaître, hein, mais en comprenant les basiques, on va dire. Moi, je suis pas un fan d'Excel, mais
c'est
plus moi que Fabien qui allait le faire. Mais encore une fois, c'était une passion d'aucun de nous deux. Mais on arrivait à bricoler un modèle où, qui s'auto-survit, quoi, qui s'auto-nourrit. Voilà.
Et vous continuiez à pas vous payer.
Ah non, et on se payait pas, puisqu'on avait à côté de ça notre salaire, notre business d'intermittent, okay, et notre fiche de paye, quoi.
C'est quoi? Alors déjà, comment ça se passe entre vous pendant ce temps-là? Comment vous arrivez à créer un duo? Parce que j'ai l'impression que lui, c'est un peu la tête, la figure de l'équipe à l'époque. Toi, sans doute, t'es plus dans l'ombre, hein, on va dire. Comment vous arrivez à vous articuler avec le temps?
Alors, t'as ce premier point d'abord, exactement, où Fabien a toujours été la face de Vitality. Moi, non, et sans aucun problème, parce que alors, j'ai pas spécialement envie d'être connu, pas que d'ailleurs je mérite de l'être non plus, mais en tout cas ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Je suis très content de venir parler aujourd'hui, ouais, ou de faire des interviews, parler de Vitality ou de l'e-sport, ça avec grand plaisir, mais voilà, moi j'ai pas cette appétence là, quoi, je m'en fiche un peu. Je sais pas si Fabien l'a ou non d'ailleurs, mais en tout cas il a bien compris, on a bien compris que c'était un super ambassadeur de Vitality, donc ça lui va très bien ce rôle là donc ça c'est un premier point sur on va dire le duo, et le deuxième aspect du duo, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes qualités, quoi. Fabien, c'est un artiste, il est extrêmement créatif, extrêmement fantasque, il fait son truc, mais c'est pas quelqu'un qu'on va canaliser, quoi. C'est tout ou rien, c'est un jour il va créer plein de choses, un autre jour il va être sur un autre sujet. Voilà, et c'est un peu le cliché de pas mal de duos aussi, j'ai l'impression. Tu vas avoir la tête pensante, ou plus ou moins le créatif, et à côté, quelqu'un qui fait bien les choses, quoi. Moi, je fais bien les choses, je pense, en tout cas. Je comprends vite, je suis capable de faire une tonne de choses et de prendre plein de sujets différents. Moi, ma qualité, ça va être de digérer plein d'infos et puis d'en sortir une bonne décision, je pense. Ou parfois des mauvaises, évidemment, mais en tout cas, ça, je sais faire, quoi. Donc, le duo marchait bien là-dessus. Moi, je trace mon sillon, je fais avancer les choses concrètement, et Fabien va avoir les idées qui, d'un coup, vont nous faire un bond énorme. Voilà, donc vraiment une complémentarité totale, pour le coup. Et on a cette chance, quoi. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me fascine, les gens qui font une boîte tout seul, parce que nous, ce qui marche bien avec Fabien, c'est vraiment... Voilà,
le miroir.
Ce ping-pong là, on va parler, on va souvent être d'accord sur les sujets de fond, mais on se nourrit en se parlant, quoi, finalement. Les gens qui font une boîte tout seul, déjà, enfin, on y reviendra, mais dans les moments difficiles, waouh, ça a été tout seul à encaisser la difficulté d'une boîte et les mauvaises nouvelles, c'est ultra dur. Donc nous, ce duo-là a bien fonctionné aussi. Je pense qu'on avait besoin aussi d'être deux, quoi. L'un ne marche pas sans l'autre, quoi.
Un truc dont on n'a pas parlé, c'est que vous aviez, et je pense que c'est vraiment un truc hyper important quand tu crées ta boîte, c'est que vous aviez un troisième cofondateur, un troisième associé.
Ouais, ouais, c'est pas très connu dans l'histoire de Vitality. C'est un peu le cofondateur Joker. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fondé à trois avec un autre mec qui bossait avec nous. Mais que ça l'a pas fait, quoi. C'est-à-dire, il apportait rien à la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il était partant pour, dans l'idée, mais dans la réalité, il était moins partant, quoi, de ce que ça impliquait, etc. Donc, on a avancé sans lui au bout d'un moment, quoi. Mais c'est une histoire intéressante, je pense, parce que il faut bien réfléchir à qui tu fais ta boîte, mais en fait, c'est facile à dire tous ces trucs-là. Tous ces trucs qu'on dit de oui, il faut bien réfléchir, même ton pack d'actionnaires, comment ça peut se passer. En fait, quand même, t'en sais foutre rien quand tu lances ta boîte et puis tu vois ce qui arrive, quoi. Mais c'est vrai que rétrospectivement, tu penses à plein de choses. Comment je l'aurais fait idéalement?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mais ça change pas grand chose. Et puis je pense que, en fait, une boîte, c'est aussi une accumulation de plein d'erreurs que t'as faites et que t'en as aussi besoin. Et que re-réfléchir l'histoire a posteriori du comment j'aurais pu optimiser. En fait, en 2013, 2014, 2015, on aurait pu prendre plein de décisions meilleures, aller plus vite. Ouais, on serait peut-être encore bien meilleur et tout. Mais c'est pas très important, je me dis, parce que tes décisions, tu les prends en instant T avec un certain nombre de données que t'as pour les prendre, avec ta compréhension d'un moment aussi. Voilà, c'est ça une boîte.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que un peu, on en reparlera un peu plus tard, mais quand vous êtes entouré de conseils au fur et à mesure, notamment pour aller chercher les levées de fonds, etc. Là, t'as pas le choix, tu es obligé d'aller chercher des gens qui vont te conseiller. Ouais. Et c'est vrai que quand on démarre, on a tendance à faire un peu tout seul, avec un petit peu les moyens qu'on a, quoi. Et j'ai tendance à croire qu'on va pas assez s'entourer quand on débute comme ça, et surtout quand on n'a pas cette fibre entrepreneuriale, tu vois, où t'as pas tes parents qui viennent te dire à un moment donné, attends, non, ça c'est une connerie, je vais t'expliquer. T'as pas des proches autour de toi qui viennent t'expliquer. T'as pas tendance à aller chercher.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, complètement. Et en plus, il y a une tension, je dirais, quand t'es entrepreneur, entre deux trucs qui sont, un, écouter pour apprendre, et ça c'est indispensable, mais ne pas écouter aussi. Parce que, par définition, c'est souvent sur un nouveau secteur, personne n'y comprend rien, personne n'a de vision de la chose, et puis si t'écoutes les gens, c'est pas terrible. Ou alors, c'est fabuleux, faut faire ça, mais aucun des deux n'est vrai, quoi. Donc, en fait, les gens sont pas qualifiés pour te donner un avis, mais ils sont qualifiés pour te donner plein d'avis sur plein de choses générales qui vont aussi toucher à ton business. Donc, tout l'enjeu, c'est, ouais, il faut, en fait, t'es obligé d'écouter à mort pour apprendre, parce que la plupart des sujets, t'y connais rien. Puis en fait, il y a plein de sujets, ça s'invente pas. Hein. Je sais pas, moi, les sujets juridiques, quand tu fais une boîte, bah ça s'invente pas. Il faut aller écouter les gens qui ont de l'expérience. Mais à la fois, il faut aussi tracer ta route, quoi. C'est tout ce paradoxe d'être entrepreneur, cette complexité, qui fait aussi que plein de gens arrivent pas à écouter, par exemple, des boîtes qui vont dans le mur, arrivent pas à écouter, qu'il faut s'arrêter. C'est ultra dur, parce que t'as ce mythe aussi de « moi, j'ai peut-être raison contre tout le monde ». On connaît plein de gens autour de nous qui ont fait des boîtes qui auraient dû s'arrêter 2 ans avant, quoi. Et nous, on le voyait de l'extérieur, mais c'est aussi normal qu'ils nous écoutent pas. Donc, t'as toute cette tension de qui j'écoute pas, quand j'écoute pas, qui est absolument pas simple à solutionner. D'ailleurs, il y a aucun conseil magique là-dessus, quoi. Mais en effet, ouais, s'entourer, c'est hyper, hyper important pour reprendre ton point. Sauf qu'il faut comprendre sur quel sujet t'as besoin de t'entourer et sur quel sujet t'as besoin d'y aller, quoi.
J'imagine que sur l'e-sport en particulier, c'est beaucoup plus dur parce que vous êtes pas en train de monter, je sais pas moi, une boîte de vaisselle, quoi, tu vois, qui est
ouais, un business. Personne connaît, quoi.
Voilà.
Et puis tu vas voir, dans la plupart des secteurs, personne connaît ton sujet, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est reprendre ce qui a du sens sur d'autres secteurs dans le tien. Quand tu lèves des fonds, finalement, c'est des mécaniques classiques de levée de fonds. Donc là, que tu sois e-sport, ça ne change pas fondamentalement les choses. Mais oui, c'est ça. Tu dois toujours réexpliquer, réévangéliser ton truc. Qu'est-ce que c'est l'e-sport? Moi, je l'ai expliqué 50 000 fois. Et c'est le jeu. D'ailleurs, faut avoir cette patience-là parce que sinon, tu fais pas ton business. Donc, il faut réexpliquer, réussir à faire comprendre aux gens les enjeux. C'est hyper intéressant. Mais ouais, bien s'entourer pour résumer, c'est quand même plutôt un bon conseil. Il y a des gens qui savent plein de choses. C'est super bien d'aller se nourrir de ça. En fait, faut aller prendre ce qui te sert, toi, quoi.
Voilà. J'ai un peu l'impression que quand tu démarres, comme t'es vraiment ric-rac en termes de sous, tu vas te dire, oh, putain, je vais pas aller mettre 500 ou 1000 balles dans un conseil parce que c'est beaucoup d'argent pour moi à ce moment-là et qu'en fait, ces 500 ou 1000 balles peuvent être énormes sur la suite, quoi.
Ouais, en fait, c'est exactement ça. Tu dois toujours juger, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Et en effet, les trucs rétrospectivement, c'est une évidence. Ah, t'aurais mis 1000 balles là. Bah, tu prends l'exemple d'un pack d'actionnaires foireux dans plein de boîtes et t'as peut-être des gens qui ont perdu des millions parce qu'ils ont pas bien mis la bonne clause au début. Sauf que c'est toujours facile à dire après et que ces 1000 euros au départ, peut-être qu'ils sont trop utiles pour faire autre chose, quoi. Pour acheter ton matos ou pour faire ce que tu veux. Je trouve que, ouais, il faut pas trop s'apesantir sur ce qu'on a fait et toutes les conneries parce qu'il y en a 50 000 et je pense qu'elles font vraiment partie de l'entreprise et que c'est pas bien grave de les avoir faites, quoi. Voilà.
De laisser erreur.
Oh bah ouais. On fait n'importe quoi sur plein de sujets, quoi. Mais en fait, c'est aussi en voulant faire plein de trucs, en ayant une ambition de faire un truc stylé. Tu pars un peu dans tous les sens. Mais nous, au début, on faisait des trucs qui, enfin, tu vois, on disait, on va faire des sites, des plateformes de stream, on va éditer un site, on va faire des news. Mais en fait, des trucs qui n'étaient pas du tout notre cœur de business, qui rétrospectivement, on a mis une énergie, un temps à faire des trucs qui servaient à rien pour nous, quoi. C'est pas bien grave.
Ouais, ouais. C'est comme ça que vous avez construit. L'un des points pivots aussi, c'est quand, si je me trompe pas, Gotaga quitte l'équipe, c'est ça?
Et ça c'est vachement marrant parce que tu sais, je trouve que tous les entrepreneurs, ils ont toujours leur storytelling d'entrepreneur. Donc à tel moment il s'est passé ça, ou dès le début j'avais la vision de ça, et très souvent c'est très construit, et on le fait tous un peu quand on va pitcher pour lever de l'argent ou quoi. Même quand on fait du média, t'as l'histoire un peu romancée, quoi. Donc ça c'est sûr, ouais, j'avais cette vision à tel moment, l'e-sport, moi j'ai vu 10 ans avant tout le monde. Bon, nous on dit pas ça, mais tu vois ce que je veux dire, t'as toujours un peu le comment tu te mets en scène en tant qu'entrepreneur. Et pour le coup, on a des trucs qui sont vraiment l'exacte réalité. Et en effet, cette histoire avec Gotaga, quand il quitte Vitality, parce que l'équipe, là c'est juste sur un côté compétitif, l'équipe marche pas, il veut aller dans une autre équipe. Et on a ce côté avec Fabien, on se dit, bah putain, tout ce qu'on a créé en fait, c'est cool, quoi. Gotaga fait partie intégrante de Vitality, c'est même le moteur, s'il s'en va, il n'y a plus rien. Et là, à ce moment-là, vraiment ce qui se passe, c'est les sponsors qui te disent, ouais, c'est un coup dur, mais en fait, Vitality c'est une marque, les gens aiment, nous on vous suit, quoi, on aime ce que vous faites. Les fans qui disent, ouais, bah ok, on adore Gotaga, mais Vitality, waouh, on adore ce que vous faites aussi, quoi, on vous suit. Et on a ce moment de réalisation qu'on a créé quelque chose. Et ça, c'est extrêmement gratifiant, surprenant, parce qu'en fait, quand t'es dans le jus, t'es à fond dans ton truc au jour le jour, tu prends pas le recul d'analyser, ok, où on en est, qu'est-ce qu'on a entre nos mains, t'as la gueule dedans, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est le truc de l'entrepreneur. C'est que t'as toujours la gueule dedans et tu prends pas la hauteur. Et l'enjeu de l'entrepreneur, c'est aussi d'arriver à prendre cette hauteur pour, ok, c'est quoi les prochaines étapes pour nous? Mais la réalité de l'entrepreneur, et je sais pas ce que t'en penses, mais t'es dedans et puis faut se démerder. T'as mis le sujet, voilà. Donc là, en fait, ce coup-là, c'est un moment de prise de hauteur de, ah, en fait, ça y est, on a quelque chose entre nos mains et on le voyait, on l'avait pas forcément vu venir. Qu'est-ce qu'on en fait?
Et il est plus dépendant.
C'est une réalisation, quoi.
C'est ça, il est plus dépendant de juste
voilà,
votre joueur.
Voilà, et Gotaga, start-up. Qui aujourd'hui est actionnaire de Vitality, qui est revenu dans l'équipe, tout ce que tu veux, c'est une partie énorme de ce qu'on a créé et on lui doit énormément, et ça, je le dirai jamais assez. Mais on a aussi créé quelque chose à nous, quoi. Voilà. Et c'était un moment de réalisation qui était incroyablement motivant aussi. C'est ok, on croyait qu'on était au fond du trou, et en effet, coup trop dur, mais on a quelque chose et en fait, il y a plein de gens qui adorent ce qu'on fait. Ça, c'est génial.
J'ai une amie qui me disait que l'ambition, c'est comme un muscle, en fait. Plus tu le travailles, plus tu fais des pompes, plus t'as l'ambition qui gonfle, quoi, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que c'est votre cas chez Vitality, tu vois. J'ai la sensation que vous avez démarré un truc, alors certes, vous aviez envie de faire un truc sérieux dans un monde où c'était un peu le dawa, quoi. Et qu'au fur et à mesure, vous vous êtes dit, ok, en fait, on a peut-être de quoi faire un truc plus ambitieux que ce qu'on pensait au départ, quoi.
Ça, c'est vrai, à la base, on avait vraiment envie de faire mieux. C'est-à-dire que, en fait, on se disait, il y a vraiment un coup à jouer parce que les gens dans ce milieu-là font pas des trucs géniaux, quoi. Et nous, on est malins. On est peut-être plus malins que la moyenne. Donc, si on bosse bien et qu'on n'est pas trop con, il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. On va faire mieux. Voilà, ça, c'était le truc de base. T'as raison. Et après, en effet, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas commencé parce que je pense que souvent, quand tu le wannabe entrepreneur, il se dit, bah, il y a un scénario où ma boîte, bam, ça explose et c'est incroyable, bah, je suis riche, j'ai réussi à créer un truc incroyable, c'est fou. Et bien sûr que quand on a créé Vitality, t'as un truc de peut-être un jour ça vaudra plein d'argent. C'est une boîte, en fait. Ce scénario-là, il existe. Mais en réalité, on se projetait pas aussi loin. Et finalement, même on se projetait pas aussi gros qu'on l'est aujourd'hui, quoi. Donc ça nous a largement dépassé. Et au fur et à mesure, en effet, de l'histoire, on s'est pris au jeu, quoi. Et on s'est rendu compte que, ouais, on pouvait être ambitieux et faire un truc gros. Il y avait la place pour ça, quoi. Ouais, c'est venu avec le temps, comme tu le dis, en bossant, en faisant avancer la machine. Ouais.
L'étape d'après, c'est quoi? C'est League of Legends, c'est ça?
Ouais, alors, en fait, on se disait qu'il fallait sur d'autres jeux que Call of Duty.
Ouais.
Ça, c'était,
Parce qu'à l'époque, c'était le seul jeu sur lequel,
ouais,
vous étiez.
Mais c'est pareil, ça, c'est le truc, après coup, qu'on analyse très facilement, qui nous semble évident. Mais on était quand même dedans et on se le disait, ça affleurait un peu cette idée-là. Là, ça tourne, mais en fait, est-ce qu'il faudrait pas faire autre chose, quoi, dans le sens où t'es dépendant d'un seul jeu. Un seul jeu, il peut moins marcher le lendemain. Là, j'ai déjà vu parce que le Call of Duty suivant Black Ops 2 avait moins marché, tout simplement. Les gens étaient moins fans du jeu, juste un moins bon jeu, quoi. Donc, il y avait moins de passion autour des tournois. Donc, ça nous avait un peu interpellé. Ah ouais, en fait, c'est pas du tout éternel, ce machin-là. Peut-être c'est pas le bon jeu, enfin, qu'importe. Et en fait, on est dépendant. Tout ce qu'on fait va être vachement dépendant. Même si on est géniaux et que le jeu est naze, ben en fait, plus personne va s'intéresser à nous, quoi. Donc, on s'est dit, OK, comment on fait? Et on voyait bien que League of Legends, alors, c'est marrant parce que c'est comme Gotaga, League of Legends. Déjà, c'était le plus fort jeu e-sport et c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est gigantesque, quoi. Là, il y a les Worlds de League of Legends en ce moment. C'est la quintessence de la compétition e-sport.
Alors, si vous connaissez pas League of Legends, alors, c'est un jeu.
C'est compliqué, ouais.
C'est compliqué, mais c'est un jeu sur lequel il y a deux équipes qui s'affrontent, et en gros, faut qu'une équipe batte l'autre. Enfin, c'est assez basique, mais c'est sur une carte, et chaque joueur a son rôle, c'est ça?
C'est 5 contre 5, ouais.
Voilà, c'est ça.
Et tu joues 5 héros ou 5 champions contre 5 autres. C'est un jeu très complexe, qui a le défaut de pas du tout être une bonne porte d'entrée pour l'e-sport, parce que beaucoup trop complexe.
Ouais.
C'est comme si tu regardais un sport auquel tu ne comprends rien, je sais pas, du football américain par exemple, qui
ou
est un sport
cricket.
Du cricket par exemple. Voilà, si tu ne connais pas les tenants et aboutissants, c'est pas un bon spectacle parce que tu comprends rien simplement. Par contre, quand tu connais, c'est un des meilleurs e-sports à regarder. C'est extrêmement télégénique, c'est des retournements de situation, c'est hyper tendu, hyper intéressant. Ça dure, un match dure 30-40 minutes, mais c'est un excellent spectacle si tu as les prérequis.
Ouais.
Mais c'est pas du tout ce que je conseillerais pour découvrir l'e-sport. Par contre, en termes de, je disais, c'est le roi de l'e-sport parce qu'en termes d'audience, d'impact, là, il y a les championnats du monde, en Chine et l'audience est phénoménale. Voilà. Et déjà en 2014-2015, League of Legends, c'est le premier jeu à se structurer avec une vraie compétition. Donc, toutes les équipes à Berlin, dans un studio, 5 contre 5, hyper. C'est le premier éditeur qui a pris le sujet e-sport à bras le corps, qui a tout internalisé. Ils ont fait la compétition, ils ont fait le broadcast, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher, des spécialistes du broadcast ou de la diffusion de sport. Ils ont été débauchés des gens.
Oui, parce qu'il y a des commentateurs
de
sport qui sont
des commentateurs, des producteurs de shows, etc. Et ils sont allés faire un show e-sport hyper léché, bien en avance sur tout le monde. Et déjà, ça crée beaucoup d'audience à l'époque. Et nous, on s'est dit, on veut en être, quoi. Et donc, en 2015, on a eu cette opportunité-là d'aller sur League, où c'était assez marrant. C'était une histoire assez curieuse parce que il y avait une équipe russe qui était dans la Ligue League of Legends, mais qui, on avait entendu des rumeurs comme quoi ils n'arrivaient plus à financer ce business-là. Eux, ils n'arrivaient pas à sponsoriser. Ils galéraient, quoi. Donc, ils voulaient vendre. Et nous, on s'est dit, c'est peut-être notre porte d'entrée dans l'écosystème League of Legends. Et là, c'était assez marrant parce que on se retrouve au téléphone avec un homme d'affaires russe qu'on connaît de nulle part et qui nous dit, voilà, moi, je veux vendre, ça coûte tant. Est-ce que vous avez l'argent, quoi? Ça coûte 300 000 euros ou 350 000 euros ou 400 000, je me souviens plus exactement. Est-ce que vous avez les thunes? Et avec Fabien, on se regarde, on dit, ouais, on a l'argent, mais complètement bluff, quoi. Et on raccroche et on se regarde, bon, bah, faut trouver l'argent, quoi. Donc ça, c'est assez marrant. C'est assez acte fondateur de Vitality, on va dire. Où on dit à un homme d'affaires russe, ouais, on est prêt à t'acheter ton truc, on a les thunes, mais on les a pas du tout.
On revient à cette histoire d'ambition, de faire des pompes, quoi.
Bah, en fait, non, c'est là, on se disait, bah, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, quoi. Pour le coup, il y a des moments où c'est que rétrospectivement que tu peux analyser que ça a été les décisions clés, et il y en a d'autres où dès l'instant où ça arrive, tu sais que c'est le moment où tu y vas, où tu te casses la gueule, quoi. Et donc là, c'était ce moment, et on a réussi à lever des fonds de manière un peu bricolée à cette époque et à acheter donc ce slot League of Legends.
Vous avez réussi à récupérer 400 000 balles en l'espace de combien de temps?
Bah, en quelques semaines, quoi.
Waouh.
Bah, par notre réseau à nous, on a, on a pitché des gens, voilà, et ça s'est trouvé qu'une personne a été convaincue par le sujet. Très, très visionnaire, parce que cette personne-là avait des conseillers qui lui disaient « Non, faut pas le faire, c'est n'importe quoi, c'est risqué. » Et quelques années après, ces gens qui conseillaient ça sont eux-mêmes rentrés au capital de State en disant de manière très fair-play, bah on s'est planté là-dessus. Donc ça, c'est sympa.
Les imbéciles qui changent pas d'avis.
Mais disons qu'en tout cas, le niveau de risque à cette époque et d'inconnu était beaucoup plus élevé. Donc c'était impressionnant de voir quelqu'un capable d'investir chez Vitality. Donc bravo à lui. Et donc on a pu, ça a été aussi un grand moment pour Vitality parce que on a explosé. Quoi. On est passé, on a fait fois 3, fois 4, fois 5 en audience, en taille, en perception, et on était sur le jeu majeur de l'e-sport.
Waouh. Et donc, ça vous permet de pouvoir rentrer dans cette ligue-là, c'est ça?
Exactement.
Et donc, d'un coup d'un seul, j'imagine, une fois que vous avez dépensé ces 400 000 euros, après, il faut créer une équipe.
Alors oui, c'est ça qui était assez marrant, c'est que déjà, bon, on récupère l'argent qu'il nous faut, mais en réalité, c'est rien, parce que tu as acheté... T'as même pas acheté l'équipe, t'as acheté un slot, une place dans la ligue. Mais t'as pas d'équipe. T'as rien. T'as pas de. À l'époque, la compétition était à Berlin, c'est encore le cas. Mais on devait avoir fait la transaction, je sais pas moi, en octobre. Je dis peut-être des bêtises sur les mois, mais bref, grosso modo, en octobre, pour une saison qui reprend en janvier, t'as pas d'équipe, t'as pas d'infrastructure. Alors là, c'était vraiment un bordel sans nom, quoi. Il a fallu trouver des mecs en Allemagne qui sont capables de nous trouver un local de 300 mètres carrés, créer une gaming house, donc de l'infrastructure, trouver des ordis, trouver une connexion internet, signer des joueurs. À l'époque, on est inconnu sur l'écosystème League of Legends. On est face déjà aux historiques comme des Fnatic, équipe historique de l'e-sport. Et on doit aller voir des joueurs en disant « Viens chez Vitality, c'est génial. » Mais on a peu d'arguments, on est franco-français, on est inconnu, on n'a pas de thunes. Parce qu'on avait certes la thune, mais elle nous a servi à acheter cela. Donc, on n'a pas de thune. Sachant que League of Legends, ça te coûte, à l'époque, ça te coûtait peut-être 1 million par an de budget, un peu moins. Tu récupérais quelques centaines de milliers par l'éditeur. C'était le système à l'époque. Mais il fallait trouver plusieurs centaines de milliers d'euros de budget, quoi. Mais alors là, c'était complètement freestyle, quoi. Parce que on s'est dit, on achète l'équipe, enfin, on achète le slot, on va faire une équipe, on trouvera des sponsors. Complètement inconscient. Mais il se trouve que ça a marché. Mais là, c'était complètement fou, quoi. Et on s'est démerdé, je ne sais pas comment, à monter une équipe et à être dans cette ligue. Et en plus, ça avait très bien commencé. Notre première saison était canon, quoi. Incroyable.
Et vous étiez
les étoiles se sont, les planètes se sont alignées parce que ça aussi, c'est. Enfin, on a eu beaucoup de bol à des moments clés, plein de malchance à des moments de Vitality, mais énormément de chance dans les années charnières, notamment, je pense, les deux moments complètement clés pour Vitality, c'est ça en 2015 et c'est en 2018 quand on doit lever de l'argent et intégrer la nouvelle ligue franchisée de League of Legends.
Ouais.
C'est l'année où tout marche comme il faut, on performe. Voilà. Il y a eu beaucoup de moments importants. On a eu la chance qu'il fallait, ça c'est clair.
Ok. Mais donc, attends. Tu dis que quand tu dis 2018, il faut lever de l'argent, c'est quoi? C'est la suite après? C'est de se dire.
C'est bien plus tard dans un univers, parce que j'ai fait un peu un saut vers l'avant. Mais
ouais.
Disons qu'entre 2016, donc 2015, on acquiert le slot League of Legends. 2016, on gère une équipe sur place en Allemagne.
Ouais.
Et entre temps, l'e-sport explose, quoi. C'est-à-dire que c'est un univers où certains commencent à se dire, ah, c'est peut-être un bon business. Notamment les propriétaires de sport américains qui, pour la faire courte, se disent, bah, mon audience, elle vieillit. Le fan de baseball ou de NFL, il commence à être sacrément vieux et puis les courbes s'arrangent pas. Les jeunes regardent moins la télé. Voilà, je te fais un agrégat d'énormes tendances de marché.
Ouais, bien sûr.
Donc, le fan de sport américain vieillit. Les jeunes sont moins devant la télé et plus devant Twitch. Ils s'intéressent aux jeux vidéo. Le gaming, c'est énorme. Tout ça, tu mets tout ça dans une marmite et ça fait certains propriétaires de sport américain qui se disent, ah, je vais peut-être mettre un peu de ma grande fortune sur l'e-sport. Et donc, tu as des grosses levées de fonds aux États-Unis sur les équipes. Et ça, ça a une tendance qui devient mondiale, quoi. Et dans cet univers où ça lève de l'argent, c'est là, on s'en parlait avant de commencer à enregistrer. Moi, je pense pas du tout que lever de l'argent, c'est une finalité. Et c'est vrai que dans le milieu entrepreneurial, parfois, c'est tu commences à en perdre la notion de la réalité et te dire, lever de l'argent, c'est un énorme succès. Alors, ça l'est parce que c'est des étapes. Ça doit te mener à un endroit, enfin, de lever cet argent. Et en fait, nous, on se rend compte, en tout cas, que dans notre univers, oui, dans l'absolu, lever de l'argent n'est pas la panacée pour toutes les boîtes, mais dans le nôtre, c'est clé. C'est-à-dire que tout le monde commence, les grosses équipes lèvent. Si toi, tu lèves pas, bah, en fait, tu vas être en D2, quoi, pour résumer. Et nous, on veut pas être en D2. Donc, il faut lever des thunes, quoi. Voilà. Ça s'est passé comme ça.
Et donc, l'un des trucs que tu disais, justement, dans cette masterclass, c'est que votre levée de fonds, elle est conditionnée aussi à cette rentrée dans League of Legends, c'est ça? Enfin, dans la
tout marchait ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en 2010, 2008, donc, si je dis pas de bêtises. Des fois, maintenant, je vieillis, je commence à me mélanger les pinceaux. En 2018, Riot, l'éditeur de League of Legends, dit qu'il va passer la ligue sur un nouveau format, format NBA, franchise. Ouais. Ligue fermée, il y aura 10 équipes retenues qui devront payer 8 millions d'euros pour rentrer. Bon. Donc, en fait, on doit à la fois être assez crédible aux yeux de Riot pour être dans cette liste, cette shortlist de 10 équipes, et à la fois lever de l'argent pour financer ça et financer le développement. Sauf que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que si on était assez crédible aux yeux de Riot mais qu'on n'avait pas d'argent, bah on ne pourrait pas payer l'entrée, donc on ne serait pas dans la ligue. Et pour un investisseur qui va investir chez nous, il veut le faire que si on est dans cette ligue, qui est la promesse d'être une top équipe e-sport. Tout se nourrit. Et en fait, tu as ce tournant donc en 2018 où c'est le moment où tout peut se jouer pour Vitality. Quoi. Pas que d'avoir réussi ce moment-là ou d'en s'en être sorti, ça fait qu'on est arrivé, mais en tout cas, il fallait franchir ce pas-là. Et c'est là que, ouais, c'est une année assez charnière à cet égard, et tout marche en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à lever l'argent qu'on veut, et en même temps, Riot nous dit, OK, on veut Vitality dans la franchise, on vous accepte dans la franchise, vous faites partie des équipes retenues, quoi. Donc là, c'est l'année où, waouh, un bon soupir de soulagement, quand même.
Ouais, j'imagine.
Ouais.
Et vous levez 20 millions d'euros, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On avait déjà levé 2 millions et demi l'année d'avant, on lève 20 millions, c'est à ce moment-là.
C'est plus une boîte pour rigoler.
Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, on a rarement pris le temps de s'apesantir et on pense pas du tout que c'est un succès ou qu'on soit arrivé ou quoi que ce soit, mais les enjeux sont plus les mêmes. Ouais. Et ça n'arrive pas. Enfin, tu commences à le réaliser que quand tu prends un peu de recul, mais au final, quand t'es dans le jus du quotidien de ta boîte et qu'il y a 1000 choses à gérer, ben, c'est pas comme, ça change pas fondamentalement les choses au quotidien, quoi. C'est juste que, bah, ben, c'est cool le moment où t'as de l'argent qui arrive sur ton compte et puis après, hop, tu te retrousses les manches et tu te remets au boulot. Ce qui est quand même cool, c'est d'avoir aujourd'hui plein d'employés passionnés du truc. Ouais, ça incarne ta boîte et ça nous fait réaliser qu'on a construit quelque chose, ça c'est sûr.
Parce que vous avez été
on se démerdait, quoi.
Ouais, c'est ça. Vous avez été pendant longtemps, combien? Trois?
Bah, on a été deux, puis trois, quatre, mais surtout plein de gens autour de nous qui gravitaient, que ce soit des graphistes, des gens qui font des vidéos, ce que tu veux, mais c'était plutôt sur des projets, quoi. Et, ouais, on a longtemps été deux, trois, avec Michael qui nous a rejoint assez tôt, qui est l'employé historique de Vitality. J'ai fait une petite dédicace là. Mais ouais, on s'est, et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que plein de gens, voyez pas ce qu'il y avait derrière le rideau, on va dire, derrière la façade Vitality, ils croyaient qu'on était 15 quand on le faisait à 3-4. Ce qui était enthousiasmant parce qu'on se disait putain, on se démerde bien, mais à la fois on galérait, quoi.
Ouais.
On galérait, et beaucoup de boulot, et puis ouais, surtout les gens voyaient pas à quel point c'était bricolé, quoi. C'était à l'arrache complet, quoi.
Aujourd'hui, vous êtes combien?
On est à Paris dans les bureaux, un peu plus de 40.
Ah ouais.
Mais il y a toujours plein de choses compliquées, plein de projets, un bon bordel qui continue. Bah évidemment, t'apprends à beaucoup mieux gérer et tu fais 1000 fois plus de choses. Mais par contre, l'e-sport, c'est un univers où, comme ça bouge tout le temps, bah on n'a pas le temps de s'emmerder, quoi. Ça, c'est sûr.
Comment le, enfin, j'ai un peu la sensation que le confinement et que toute cette histoire de pandémie, de Covid, etc., a permis aussi à la plateforme Twitch d'exploser, parce que j'ai plein de gens qui connaissaient pas du tout Twitch qui venaient m'en parler en disant ah, j'ai découvert Twitch et puis il y a Tony Parker qui commençait à lancer des lives ou Antoine Griezmann qui jouait ou je sais pas Charles Leclerc qui faisait de la F1 etc. Vous de votre côté par rapport à cette pandémie, comment vous l'avez vécu cette pandémie?
Donc là il y a plein de points. D'abord le premier point, Twitch il est intéressant parce que je dirais pas que Twitch a explosé parce que en fait Twitch c'est déjà un acquis chez énormément de jeunes, ils vont consommer du contenu sur Twitch. Donc ça on le sait. Par contre, il y a eu deux effets. Il y a un côté une résonance plus grand public, plein de gens qui connaissaient pas Twitch ont découvert que ça existait, et surtout Twitch va au-delà du gaming maintenant. C'est là où ils sont extrêmement intelligents. Et Twitch d'ailleurs franchement, c'est vrai que bon, OK, Amazon l'a racheté 1 milliard, c'est beaucoup 1 milliard, mais quand tu vois le prix de plein de rachats dans la tech etc., ils ont fait l'affaire une énorme affaire, quoi.
Ouais.
Parce que Twitch est vraiment très très puissant. Et surtout, ils ont compris maintenant qu'ils ont énormément de gens qui, en fait, vont sur Twitch comme ils allumeraient leur télé. C'est Twitch et après, ils vont regarder ce qui s'y passe. Et maintenant, ils ont compris qu'ils peuvent aller bien au-delà du gaming. Donc, tu as plein de sportifs ou d'autres. Certains sous un prisme gaming, mais d'autres pas forcément. T'as aussi sur Twitch plein de shows, je sais pas, moi, ça peut être comme des podcasts ou des débats. Parce que Twitch devient une plateforme de consommation de contenu qui va bien au-delà du gaming. Et je pense que c'est leur ambition. Donc voilà, il y a cet effet-là qui s'est encore exacerbé avec le confinement, parce que plein de gens connus cherchaient peut-être une plateforme pour s'adresser à leurs fans, trouver des moyens d'interagir, et Twitch remplit bien ce rôle-là. Pour nous, le confinement, ça a un effet un peu particulier parce que tu as un point de vue extérieur où l'e-sport explose, entre guillemets, de manière mainstream, comme on le dit, et ça, tout le monde se dit, c'est génial pour vous, et en effet, très belles audiences, des compétitions, génial et tout. à la fois comme pour tous les business, c'est un peu de la merde cette année. Hein. On a galéré à plein d'égards, on peut plus faire d'événements, c'est compliqué pour plein de marques. Or, nous, on vit beaucoup du sponsoring. Donc, il y a plein de compétitions annulées, donc plein de chiffres d'affaires en moins. Donc, une année galère et parfois un peu frustrante parce qu'on te dit « génial pour l'e-sport ». Ouais, mais les gars, quand même, c'est pas si facile. Pour autant, sur le long terme, je pense que ça sera un bon, quelque chose de positif dans le sens où ça a permis de mettre beaucoup la lumière sur l'e-sport et de nous faire encore accélérer et grandir, quoi. Donc voilà. Donc, énormément de frustration parce qu'il faut serrer les dents. Mais encore une fois, enfin, on va pas pleurer non plus. Il y a des gens dont le business est complètement arrêté. Nous, on existe, quoi. Ça bouge. Il se passe plein de choses. L'e-sport continue. On peut jouer online.
Oui,
oui, une fausse conception de l'e-sport, ou du moins une incompréhension, mais assez naturelle, c'est qu'on peut se dire que ça se joue sur Internet. Or, il y a mon portable qui vibre, je l'ai pas enlevé, j'ai pas été bon élève. En réalité, l'e-sport se passe dans des arènes ou des stades et se passe en physique, en offline. Et c'est même ce qui fait la beauté de l'e-sport, c'est ce côté compétition, de voir les équipes comme un match de sport. Et là, pendant le confinement, évidemment, c'est passé en online principalement et ça continue encore beaucoup en online. T'as assez peu d'éditeurs capables de faire des tournois. Riot le fait en Chine, là, mais c'est une organisation drastique, quoi. Ils ont fait une bulle comme en NBA, 14aine. Tous les joueurs du monde qui sont allés en Chine pour les Worlds, là, sont restés chacun 14 jours isolés dans une chambre d'hôtel. Coût astronomique, organisation très complexe. Riot est le seul quasiment à pouvoir le faire. Tout le reste est en online actuellement. Mais ça continue.
Et oui, je pense qu'on oublie, enfin, on met un peu de côté, effectivement, l'aspect équipe et l'aspect, et notamment, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, c'est que Gotaga s'était barré de Fnatic parce que...
De Vitality, ouais.
Pardon,
t'inquiète pas.
De Vitality, parce que justement, l'équipe n'était pas assez bonne et qu'il y a un vrai truc de réussir à manager les équipes et à manager les talents. Comment ça se passe, vous, aujourd'hui, alors que vous avez grandi? Alors, je pense à l'époque où vous dites, OK, bah, on va prendre l'équipe, enfin, on va prendre l'équipe qu'on a et on va faire... Aujourd'hui, vous avez des ambitions. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire rentrer des gros joueurs aussi, parce qu'il y a un mercato en plus. Enfin, ça marche vraiment comme au foot, quoi. C'est...
Ouais, là, tu retrouves tous les codes du sport. D'abord, tu prends un premier postulat. C'est qu'en sport, tu peux pas gagner sans les meilleurs. Les équipes qui gagnent, elles ont toujours des top joueurs. Tu as le petit poussé parfois des joueurs un peu moins forts, mais qui font un collectif fabuleux sur une année où ça marche. Ça existe, mais... Tu regardes quand même le sport, que ce soit le foot, le rugby, le basket, il y a souvent les équipes qui gagnent ont des top joueurs. Voilà, c'est une réalité du sport parce que c'est un business de talent. Un top joueur, ça fait la différence. En e-sport, c'est pareil. Parce que ça, c'est assez difficile à percevoir. En fait, les gens qui commencent à regarder d'un point de vue extérieur ne voient pas qu'il y a le même côté pyramide de talent que dans le sport. Dans le sport, tu peux être très fort en foot. Un mec qui joue en 5e division de foot, il est trop fort. Par rapport au commun des mortels, il est incroyable. Mais en fait, il est beaucoup moins fort qu'un joueur qui est en D2. Et qui, lui, est beaucoup moins fort qu'un joueur qui est en D1. Même en tout en haut de la pyramide, il y a encore de l'écart gigantesque.
Bien sûr.
Et même, c'est un mec qui joue en Ligue 1, c'est un sur des dizaines de milliers. Mais en fait, un mec qui joue au PG, c'est encore autre chose. Et un Messi, c'est encore autre chose. Donc, t'as ce côté pyramide de talent, où même quand t'es très fort, il y a encore des gens beaucoup plus forts, et c'est ces top joueurs qui font la différence. Dans l'e-sport, c'est pareil. Tu vas avoir quelques... Ouais, vas-y,
pardon,
tu
non,
voulais rebondir.
Ouais, j'allais te couper deux secondes, parce que j'ai interviewé l'ostéo de l'équipe de France, ouais, et de Tony Parker, qui racontait justement le 1%.
Eh ben oui, c'est ça.
C'est exactement ça, et puis je pense que ça marche pareil.
C'est exactement pareil. Tu vas avoir des joueurs très très forts en e-sport, mais après t'as encore les tout meilleurs. T'as les top joueurs qui vont être en LEC, donc League of Legends. T'as en Europe, allez, en prenant la LEC et division inférieure, t'as peut-être 200 joueurs. Et là-dedans, t'as encore des strates, des niveaux de talent, et t'as les tout meilleurs, ils écrasent tout. T'as le meilleur joueur, si t'as le meilleur joueur du monde sur League of Legends, ça suffit pas. Voilà. Mon point, c'est que le top talent, c'est indispensable, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas en empilant les meilleurs joueurs que tu gagnes. Il faut faire bien autre chose. Il faut bien les entourer, bien les faire jouer en équipe, avoir les bons coachs, qui jouent bien ensemble, qui soient forts à l'instant T. T'as tout un tas de choses qui sont exactement ceux du sport. Et donc, nous, notre enjeu, ça va être d'avoir les meilleures équipes possibles qui passent par soit le recrutement des meilleurs joueurs. Donc là, on est en compétition avec les équipes. Mercato. Pourquoi le joueur viendrait chez toi? Bah, parce que tu vas peut-être, alors t'as un côté salaire. En fait, dans ces milieux-là, quand t'es l'un des meilleurs joueurs, t'es très demandé, donc tu vas pouvoir faire jouer la concurrence, évidemment. À côté de ça, t'as un côté historique du club. Par exemple, nous, sur Counter-Strike, on a le meilleur joueur du monde et on a une équipe qui gagne depuis longtemps. très facile d'attirer les top talents pour chez nous, comme un top, je sais pas, les joueurs veulent jouer au Real en foot, bah, c'est pareil. T'as vraiment les mêmes codes. Donc nous, il faut qu'on ait les meilleurs joueurs.
Quand tu dis que vous avez le meilleur joueur du monde, c'est un peu... Enfin...
Sur Counter-Strike?
Oui, c'est ça, sur
ouais,
Counter-Strike.
On a Ziwo qui est le meilleur joueur. Ouais.
Ziwo, mais que vous avez recruté il y a...
Bah, quand on a commencé l'équipe, il y a 2 ans.
Ouais. Il y a 2 ans, donc il n'était pas le meilleur joueur.
Non, là, c'est une super histoire.
Vous
parce
l'avez fait grandir aussi.
C'était un rookie, quoi. Il n'avait jamais joué en pro. Enfin, il jouait au niveau, l'échelon en dessous. Et, mais tout le monde savait que c'était un incroyable talent. Par contre, en effet, c'est clair que c'est une histoire fabuleuse parce qu'il a éclos compétitivement et professionnellement chez nous. Et il a roulé sur tout le monde, quoi.
Donc il y a aussi un aspect centre de formation.
Exactement. Il y a tout. En fait, on va retrouver beaucoup des codes. Et nous, notre enjeu, voilà, côté Vitality, c'est d'arriver à bâtir les meilleures équipes. Et t'as plein de moyens. T'as vraiment le côté aller signer un top joueur. T'as le côté prendre des rookies, les faire progresser. T'as le mix des deux. T'as trouvé les bons coachs qui vont faire marcher tout ça. Comment dire, mettre la bonne infrastructure de comment on a les meilleurs analystes, comment on comprend le mieux les autres équipes, comment on est mieux préparé que les autres. Les coachs mentaux. En fait, la performance en e-sport, elle va être sur plusieurs critères. T'as le côté talent. Vraiment, il y a un côté talent. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. T'as des joueurs qui sont beaucoup plus doués que d'autres, quoi. Enfin, moi, je joue aux jeux vidéo. Je suis OK. Mais par exemple, je prends un Gotaga. N'importe quel jeu qui touche en 5 minutes, il sera 20 000 fois meilleur que la plupart des joueurs. Juste, il est trop doué à ça. Trop fort. Voilà, c'est comme ça. Comme un mec est trop fort avec un ballon. C'est pareil. Il n'y a pas d'explication particulière. À côté de ce talent, faut le travailler. Faut avoir,
enfin, si, il y a des explications. Je pense que neuronales,
évidemment, comme, en sport. Oui. Évidemment, il y en a, mais on est encore assez loin de bien comprendre tous ces phénomènes-là. Et évidemment, oui, c'est certaines connexions qui sont appropriées. En fait, ce qui fait que tu comprends mieux, que tu prends les meilleures décisions, ça s'explique.
Ouais.
C'est juste que quand je dis on comprend pas, c'est un petit peu complexe. On défriche tout ça. Mais, et quand je dis on comprend pas, c'est juste d'un point de vue extérieur, pourquoi lui est trop fort au foot? Ben lui, il est trop fort, quoi. Et lui, il est trop fort. Sauf que ça suffit pas, ce pur talent. Faut le travailler. Il faut jouer en équipe. Si t'as un talent individuel, mais que tu le mets pas au service de l'équipe, ça sert à rien. Encore une fois, les parallèles sont nombreux. Donc nous, notre enjeu, c'est comment on bâtit toute la structure pour que on ait les bons joueurs et qu'ils soient à leur meilleur niveau de performance possible collectivement. Et la performance, c'est à la fois ce talent-là, c'est la prise de décision, c'est la communication. Parce qu'en fait, l'e-sport, la vraie différence avec le sport, je trouve, c'est que les joueurs, ils parlent tout le temps entre eux. Ils se donnent de l'info. En sport, c'est très limité sur un terrain de sport. Sur un terrain de foot, le coach peut crier une petite consigne générale, les joueurs peuvent se parler, mais globalement, tu joues, tu cours, et puis t'as pas le temps de discuter, quoi. En e-sport, t'as pas cette dépense physique, elle est limitée. Par contre, mentalement, ça ne s'arrête jamais. Et donc, les joueurs sur League of Legends, par exemple, vont constamment se parler, se donner de l'info. Ok, donc là, à 13 minutes, il y a tel objectif qu'il faut prendre sur la map. Une minute avant, on va rotate là, avec un langage, d'ailleurs, un peu barbare pour le profane, oui, incompréhensible, mais comme tous les langages spécifiques.
Ouais.
Et donc, les joueurs vont constamment discuter entre eux. Et il y a un énorme aspect de la performance, et donc un enjeu pour nous, c'est comment on communique parfaitement avec le moins de bruit dans la communication. Comment tu vas dire que ce qui est essentiel, comment tu vas mettre que de l'émotion positive, ce qui est dur, hein, parce que c'est très facile de dire théoriquement, il faudrait jamais râler, être frustré, mais dans la vie d'un match, si ton coéquipier fait une connerie, ou même toi, t'es frustré contre toi-même, du coup, il y a des phénomènes classiques. Par exemple, quand une équipe perd, les gens, ils parlent plus. Ils se renferment. Et ça, c'est très très dur à travailler, c'est-à-dire que quand t'es en train de perdre, tu fais moins l'effort de communiquer, alors qu'il faudrait d'un ton toujours égal donner le même niveau d'info, etc. C'est très 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 dur. Il y a toute une composante de la perf qui est dans cette communication en équipe. Et ça, c'est un peu nouveau dans le sens où c'est pas une pure réplication du modèle de sport traditionnel.
Et dans l'aspect coaching mental aussi, j'imagine, qui est très très important.
C'est hyper important, et même la composante mentale est plus forte qu'en sport. Elle est extrêmement importante en sport, hein. Mais là. Voilà, c'est pareil, tu dois être toujours à fond, tu dois pas te frustrer, tu dois prendre des bonnes décisions constamment. L'e-sport, c'est un talent de prise de bonnes décisions de manière répétée. Dans un match de Counter-Strike ou de League, tu as des milliers, des milliers, des milliers de décisions. Et c'est l'accumulation de ces bonnes décisions, plus rapidement que les autres, qui va faire la différence. Et donc, le coaching mental est clé. Et ça, c'est dur. Hein. En fait, la vie de joueur, elle est très dure. Hein. Ça, je tiens à le dire.
Bah, au niveau ultra pro, j'imagine, bien sûr, c'est évident.
T'as énormément de pression, tu t'entraînes beaucoup.
Combien d'heures par jour?
On essaye, nous, de limiter. En fait, tu veux, t'avais un modèle complètement bricolé. On se disait, et notamment, c'est hérité de la Corée, qui est le berceau de l'e-sport. T'as une culture là-bas, et je pense qu'il est bien au-delà du jeu vidéo, de travail, quoi. Mais de travail poussé à l'extrême, quoi. Genre, il faut s'entraîner 15 heures par jour, quoi.
Tu parlais de gaming house, c'est ce moment-là
où t'as ce modèle-là coréen, ouais, où les mecs dans une gaming house s'entraînent 15 heures par jour sous la houlette de coach ultra dur.
Et ils vivent tous ensemble.
Voilà. Qui est un modèle, à notre sens, extrêmement malsain. parce que en réalité, si tu dois faire de l'analyse un peu scientifique de ça, peut-être que 8 heures d'entraînement par jour, ça va te faire une progression linéaire. Puis au-delà, ça va commencer à être des effets qui diminuent sur, on va dire, ta performance ou ta prise d'expérience. Et peut-être que de la 8e à la 12e heure d'entraînement, tu ferais mieux de dormir ou de comprendre le jeu, de faire de la théorie ou d'aller courir. J'en sais rien. Donc nous, en tout cas, et nous, c'est plutôt l'écosystème européen du sport, de l'e-sport, on se dit, ouais, comment on s'entraîne optimalement? Et c'est certainement pas en accumulant purement de l'heure de jeu, quoi. Donc les joueurs vont plutôt s'entraîner 5-6 heures par jour en équipe. Encore un peu individuellement à côté. Parce que c'est des jeux extrêmement exigeants. C'est des jeux extrêmement exigeants mécaniquement. Mais quand on dit mécaniquement, c'est la capacité à bouger la souris très vite, à cliquer au bon endroit. Ce qui peut paraître, difficile à comprendre. Mais les meilleurs joueurs, ils ont un niveau de précision qui est incroyable. Et ça se travaille. T'as la mémoire du muscle. Ça se répète, etc. Mais voilà, l'entraînement e-sport, pour atteindre la performance, c'est pas du tout que jouer, quoi. C'est vraiment, ouais, faire de la théorie de jeu, faire du sport pour être en bonne forme, avoir un équilibre mental, etc.
Je vous invite à regarder. Il y a des streamers qui font ça d'ailleurs, qui mettent une caméra sur leur main, pour que tu vois à quelle vitesse ils bougent à la fois leur clavier, leur doigt sur leur clavier. Exactement. Et leur souris. C'est assez impressionnant à voir, quoi.
Ouais, c'est même incompréhensible. Moi. Non, mais dans le sens où. Oui. Et c'est moins vrai parce qu'en fait, le jeu historique qui magnifiait le mieux les APM, on va dire le nombre de clics, c'est StarCraft, qui est un peu tombé en désuétude côté e-sport. Ouais. Mais là, c'est un nombre. Alors, non seulement c'est un nombre d'actions par minute qui est insensé.
Ils peuvent monter à 600.
Plusieurs centaines, exactement. Ouais. Donc déjà, ça physiquement, on serait incapable de le faire. Mais c'est surtout, moi je trouve, ce qui est beaucoup plus fascinant, au-delà de cliquer 600 fois par minute, c'est surtout que ces 600 clics qui ont du sens, qui sont le fruit d'une décision. C'est-à-dire qu'en même temps que le mec clique comme un malade, il réfléchit à un plan de jeu et il l'exécute. Et en fait, chacune de ces deux choses séparées, c'est déjà impossible. Mais les deux en même temps, c'est des mecs inhumains. Hein. C'est juste un autre monde, quoi.
Et j'ai aussi la sensation que... Enfin, tu disais dans cette masterclass que vous aviez aussi un coaching à la fois mental, bien sûr, mais aussi physique. C'est-à-dire que y a toujours ce cliché du nerd qui est derrière son écran et qui bouffe des chips, etc. Ouais. C'est fini au très haut niveau.
Ouais, c'est un cliché... vachement emmerdant. Je pense qu'on n'est pas complètement sorti du cliché sur le jeu vidéo en France et de son traitement médiatique. Forcément, ça change parce que tout le monde joue, notamment, enfin, je dis tout le monde joue, évidemment, je caricature, mais en tout cas, les jeunes générations, le gaming, c'est extrêmement prédominant, c'est très, très fort. Donc, en tout cas, c'est complètement accepté et naturel. Tandis que pour les générations qui sont encore peut-être qui ont une présence médiatique ou qui vont encore être journaliste télé ou presse écrite, pour certains d'entre eux, hein, pas tout le monde, c'est plus loin. Le gaming, c'est pas aussi naturel. Donc, je pense que t'as une évolution naturelle. T'as des gens plus jeunes qui vont s'exprimer. Donc, forcément, le gaming va être beaucoup plus mainstream et va être considéré comme quelque chose de beaucoup plus faisant partie de la vie de tout le monde de tous les jours. C'est pas encore toujours le cas dans les médias. T'as encore beaucoup de clichés qui saoulent, quoi, parce qu'ils sont là depuis 15-20 ans. Faudrait un peu en sortir, quoi. Après, malheureusement, sur le jeu vidéo, tu as aujourd'hui, je trouve, des mécanismes qui sont pas forcément sains côté publisher. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, la monétisation du jeu vidéo, elle se fait non plus quand tu achètes le jeu, mais avec des micro-transactions, tu as beaucoup d'éditeurs dont le job est d'essayer d'accrocher le plus les joueurs, parce que plus ils vont rester dans le jeu, plus ils vont acheter. Et des Fortnite, notamment, ou les jeux mobiles, qui sont très, très vicieux de ce point de vue-là, encouragent ces comportements. Donc, le jeu vidéo n'est pas tout blanc, je pense, et il y a des choses à travailler, peut-être côté du législateur, mais globalement...
Sur l'aspect de l'addiction, tu veux dire, c'est ça?
Alors, ou de l'addiction, ou même, des mécanismes qui te poussent à rejouer.
Qui te rendent addictif.
Je vois mille fois plus de positifs dans le jeu vidéo. D'abord, c'est hyper bien fait par des jeux, c'est de pures expériences, quoi. C'est top de jouer à des bons jeux. T'as des tonnes de créateurs de jeux vidéo qui sont géniaux, qui sont des artistes incroyables, des studios géniaux. Donc, il y a de quoi faire dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est trop, trop bien. Que ce soit le jeu vidéo compétitif ou le jeu vidéo en général. Après, c'est hyper fort socialement, le jeu vidéo. En fait, j'ai quand même l'impression que plein de gamins, ils se retrouvent sur Fortnite, mais ils pourraient se retrouver sur Rocket League. En fait, ils branchent leur Discord. Donc, et en fait, ils sont entre potes, surtout, quoi. Et le jeu vidéo, c'est une manière d'être avec tes potes. Garçon ou fille, et c'est trop cool, quoi. Et ça, cet aspect, en fait, c'est génial parce qu'en plus, il bat complètement en brèche l'ancien cliché du jeu vidéo, du mec enfermé chez lui à jouer. Aujourd'hui, le jeu vidéo se pratique surtout en multijoueur, quoi. Et ça, c'est top. Franchement, jouer avec tes potes, c'est excellent, quoi. Et partager cette expérience-là, je pense que le jeu vidéo apporte beaucoup de ce point de vue. Donc, c'est chiant, ce qui est encore plein de clichés anciens sur le jeu et celui de l'obésité ou la sédentarité. Ouais, le gamer n'est pas forcément chez lui à s'empiffrer, quoi. Et sur le côté pro, pas du tout, parce que En réalité, tu veux que les joueurs ils soient en forme et qu'ils puissent être en meilleure forme à l'instant T. Et le sport, ça aide sur deux aspects. Ça aide sur l'aspect d'être très en forme, notamment quand tu joues un match de 4-5 heures, d'être toujours alerte, vif, etc. parce que t'as fait du sport et que t'es bien dans ton corps. Et ça joue sur l'équilibre mental aussi, quoi. Tout le monde n'adore pas le sport, mais le sport a plutôt énormément de bienfaits et de vertus. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, ça complète très, très bien la formation du joueur pro, quoi.
Ok. C'est quoi les étapes d'après pour Vitality? Parce que là, aujourd'hui, vous avez réussi à passer cette étape justement de se dire ok, on est vraiment maintenant une équipe internationalement connue et c'est parti quoi.
Ouais, alors oui, parce qu'on a beaucoup de joueurs de plein de nationalités, on a des fans un peu partout, mais on peut encore largement développer ça et rendre ça plus fort. On peut être beaucoup plus fort sur plein de pays. Tu vois, on aimerait bien s'étendre en Asie, etc. Le modèle PSG, alors qui est différent parce qu'il marche avec un petit bonus d'argent infini qui vient du Qatar. Donc, ils peuvent manœuvrer et faire tout ce qu'ils veulent. Le modèle PSG, c'est une super réussite parce que ils ont pris une marque purement française, parisienne, à la ville de Paris. Ça rayonne bien. Et ils en ont fait un truc international. Donc, c'est assez stylé parce que partout dans le monde, les gamins peuvent être fans du PSG.
C'est un peu ton objectif à toi, tu vois, de dire,
je sais pas si je dirais ça parce que d'abord, c'est très particulier, c'est dans le foot où le foot est très répandu partout et c'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même un truc assez impressionnant de la part du PSG parce que moi j'entends quand même plein de gens critiquer le PSG, oui ils ont pas gagné de Ligue des Champions, ok, mais d'un point de vue purement entrepreneurial ou business si tu veux, ils ont quand même réussi à en faire une marque mondiale et qu'on aime ou pas, c'est une réussite.
Oui, puis capable d'attirer les meilleurs joueurs
ouais,
aussi.
C'est vraiment, le PSG c'est une réussite stylée. Donc ouais, d'une certaine manière ce modèle d'être fier d'être français et de rayonner dans le monde, ça nous intéresse. Nous, on est ultra fiers d'être français. Moi, j'adore la France. C'est un super pays à plein de niveaux, socialement. Enfin, franchement, j'adore ce que ça peut représenter à plein de niveaux. Donc, en tout cas, nous, on se dit pas juste on veut être international. Quand on a cet ADN français et on est assez fiers de ça. Et donc, garder ce côté français, par contre, d'être présent beaucoup plus fort dans plein d'endroits du monde, ça nous plairait. Ça peut être ça, les prochaines étapes.
J'ai vu aussi que vous aviez lancé l'année passée un endroit.
Ouais,
dans
on a
Paris.
Nos bureaux V-Hive à Paris, ouais. Bah, juste à côté de là où on se parle, qui sont
boulevard
Sébastopol, ouais, tout à fait.
C'était un objectif vraiment. Alors c'est à la fois des bureaux, mais c'est aussi un endroit où vous pouvez. Donc il y a un
cybercafé. Comme au bon vieux temps, moi, pour revenir à mes années
lycée.
Quand on était jeune, moi, donc quand j'avais 16-17, c'était le boom des salles de jeux en réseau. Donc j'avais joué à Counter-Strike, je m'en souviens. C'était excellent et ça a disparu en 2 ans, quoi, quand la DSL est arrivée.
Ouais.
Tout le monde est revenu jouer chez lui. Alors que tu vois, en Corée, il y a ce qui s'appelle les PC Bang, et en fait, c'est des salles de jeu. Mais en fait, là-bas, c'est très différent, c'est que c'est une sortie, socialement, tu vas jouer avec tes potes dans la salle de jeu, quoi. On joue moins en restant chez soi, et en se parlant sur des outils de communication en ligne, comme on le fait en France. Bah, en Corée, on sort jouer à la salle de jeu avec ses potes. Mais comme c'est une sortie comme d'autres, quoi. Et ça, c'est vachement sympa, et ce modèle-là, il nous plaît, parce que socialement, il est très cool. Et donc, du coup, on a eu envie de le mettre en France, et d'avoir, comme au bon vieux temps, quand j'avais 16-17 ans, d'avoir une salle de jeu en réseau. Et donc, tu peux venir à V-Hive, notre flagship, notre lieu, jouer à n'importe quel jeu, à Counter-Strike, à League of Legends, Fortnite, Valorant, avec du super équipement. Et puis il y a la boutique du club, comme une boutique de club de sport, quoi.
Et parce que vous faites du merch aussi.
Exactement. Ouais.
Et qu'il y a, j'imagine, une grosse partie de votre business, c'est que.
Ouais, c'est une belle partie du business aujourd'hui.
Vous pouvez livrer dans le monde entier.
Ouais, pas encore dans le monde entier. Oh, c'est un vrai sujet. Comment on ouvre d'autres pays, etc. Mais ouais, on fait du merch pour soit porter les couleurs du club, le maillot si t'es fan. Même on fait aussi plein d'autres fringues, voilà, que tu peux commander ou aller chercher à la boutique du club.
Vous avez Adidas aujourd'hui,
qui est un gros partenaire de Vitality. Ouais.
Quand même, c'est classe, quoi.
Ouais, c'est cool de voir des marques du sport qui se sont penchées sur l'e-sport. Adidas, c'est beaucoup plus tôt que d'autres. Et nous, on l'a fait très tôt avec eux. Ça fait presque 4 ans maintenant.
Et quand ils font venir une de leurs stars de la NBA, James Harden, qui est un des joueurs des Rockets de Houston, vous vous retrouvez à...
Non, on a fait une OP avec eux. Il y avait Gotaga, Broken, qui est un autre joueur historique de Vitality,
classe,
sous les
quoi.
Couleurs de Vitality. Ouais, top. Ouais, surtout qu'on adore la NBA. Donc,
Ah, puis c'est hyper valorisant. Ah oui, carrément.
Puis ça montre aussi, au-delà de nous, ce côté, ça et plein d'autres choses montrent que ouais, l'e-sport commence à faire partie du paysage, quoi. Il le fait partie pour plein de générations, c'est même pas un sujet. Mais pour plein de gens, peut-être qui nous écoutent ou qui sont dans plus, qui connaissent mieux le sport traditionnel, c'est pas encore complètement sur le radar. Et c'est logique, c'est générationnel, ça prend le temps d'y être. Mais en fait, ouais, l'e-sport est là, quoi.
Merci beaucoup, Nicolas.
Ben, merci à toi.
Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur.
Ben, merci beaucoup.
Comment ça se passe pour l'équipe d'une manière générale là, cette saison?
Alors, on a eu une top saison sur Counter-Strike.
Ouais.
On a été vraiment une super équipe, numéro 1 mondiaux pendant pas mal de semaines. Et là, une fin d'année très prometteuse. Donc, Counter-Strike au top. League of Legends, beaucoup plus difficile. Saison de reconstruction, on a pas mal galéré.
Ouais.
Mais on sait qu'on mettait les briques pour 2021. Donc, on a un peu mangé notre pain noir sur cette année de ligue en faisant pas playoff. Mais on a un super coaching staff et là, on travaille la saison prochaine. Donc, je nous souhaite d'être fort l'année prochaine parce que League, c'est un des jeux majeurs.
Ouais.
Et sur Rocket League, très bon. Sur d'autres jeux, pas mal. Une bonne saison. Moi, je retiendrai pas mal de frustration du Covid
ouais.
pour le business en général. Et ouais, puis même dans la vie de tous les jours. Quoi. Ça nous fait chier. Quoi. Trouvez-nous le vaccin, les gars.
C'est vrai que quand tu vois quand tu regardes des matchs où tu te dis tiens putain on se retrouvait tous ensemble à un moment donné à un endroit
ouais, ça manque ouais même les grands rassemblements
ouais.
Là il devait y avoir le Major Counter-Strike au Brésil qui est une terre passionnée de Counter-Strike donc ça allait être un énorme bordel joyeux parce que les fans brésiliens sont complètement tarés genre paraît vraiment que c'est les plus fous de la planète et quand il y a des compétitions au Brésil c'était un peu n'importe quoi mais dans le sens passion énorme
ouais.
Donc là le Major Counter-Strike qui est la grosse compétition qui a lieu deux fois par an qui devait avoir lieu à Rio en mai a été redécalé en octobre puis annulé parce que c'est juste pas possible, c'est énorme frustration quoi. Nous on voulait aller voir ça de près, vivre ces moments incroyables et idéalement soulever un trophée devant ce public là donc ça frustre ouais. Vraiment hâte que les grosses compétitions reprennent avec du public, c'est pas tout de suite.
Ouais c'est sûr. On attend le vaccin, comme tu dis.
Ouais, c'est clair.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.